Bonjour et bienvenue à ce nouveau concept de balado, le balado-mersion. Alors, pour vous accompagner dans ce balado, deux sublimes baladeuses, Clara et moi-même, Marie-Dominique.
Bonjour, merci Marie-Dominique. Effectivement, aujourd'hui, on va lancer ce nouveau format asynchrone, au cœur duquel on va essayer à chaque mois de vous faire un topo des thématiques du mois. Marie-Dominique vous reparlera de cette nouveauté. On va aussi discuter avec des acteurs du milieu et commenter l'actualité scientifique en lien avec la pédagogie numérique.
On va laisser place également aussi aux chercheurs, chercheuses qui pourront venir nous parler de ce sur quoi il y a le travail.
On va se présenter, je pense. Vous nous connaissez depuis très peu. En fait, on est les membres de la nouvelle équipe Immersion. En ce qui me concerne, Clara, ça fait un petit moment que je suis à Immersion CP. Beaucoup me connaissent, mais j'étais plus en background. Cette année, je suis CP pour Immersion CP, donc on va se voir beaucoup plus. Pour vous parler un petit peu de mon parcours, j'ai une maîtrise en sciences de la communication et je suis en train d'achever un doctorat en pédagogie de l'enseignement supérieur, tout en travaillant depuis des années au développement de ressources en conseil pédagogique.
Clara et moi avons quelque chose en commun, ce n'est pas l'accent, c'est bien la maîtrise en communication que j'ai fait ici à l'Université de Sherbrooke, mais j'ai une formation en enseignement de l'anglais, langue seconde, donc je suis issue du milieu de l'enseignement. J'enseigne d'ailleurs au baccalauréat en communication depuis les 12 dernières années. Je suis conseillère pédagogique depuis quelques années déjà, mais récemment à Immersion CP là, avec toi, Clara. Nous aurons le plaisir d'être présentes lors des différentes activités que nous proposons. Donc, on a eu un premier atelier le 10 septembre dernier où on a présenté aux personnes présentes les différents ateliers pour les premiers mois, basés sur les suggestions qu'on avait reçues là, lors du ARVCP, entre autres, et où les personnes présentes ont eu l'occasion de s'exprimer également sur leurs besoins ou leurs intérêts. Et on va construire les prochaines activités en fonction de ces besoins-là. D'ailleurs, cette année, nous avons pensé les activités sous forme de thématiques. Donc, à chaque mois, nous aurons une nouvelle thématique à vous proposer. Il faut dire que les premiers ateliers qu'on a déterminés pour les premiers mois étaient aussi basés sur vos intérêts, puisqu'on est parti des thématiques que vous aviez mentionnées à la suite du rendez-vous CP de 2025. La première thématique de l'année, bien, comme on était une nouvelle équipe, on a décidé que le mois de septembre serait donc à l'image de la nouvelle équipe Immersion CP, donc Immersion CP, fait pour neuve. Pour les prochaines thématiques, nous aurons au mois d'octobre valorisé ces projets avec les prix Hublot. Ça va concerner le sentiment d'imposteur face au projet DCP, parce que qui n'a pas ce sentiment d'imposteur chez les personnes CP? Donc, quelques membres de la communauté d'Immersion CP qui viendront faire un tour lors de l'atelier et de la pédagopause. Pour le mois de novembre, nous avons les CP dans les institutions entre confusion et rôle essentiel. Un atelier encore et une pédagopause. Et au mois de décembre, nous parlerons des expériences autochtones et du numérique. Donc, deux pédagopauses sont prévues pour ce mois de décembre. Les prochaines thématiques sont déjà présentes sur notre LinkedIn. C'est à ne pas manquer, mais si vous voulez savoir comment vous inscrire et les thématiques à venir, je vous invite à vous inscrire à l'infolettre.
Malgré les nouveautés à Immersion CP, vous allez pouvoir retrouver nos trois activités phares qui sont les ateliers, les collabomersions et les pédagopauses. D'abord, Immersion CP, c'est un concept par et pour les CP. Donc, toutes nos activités sont animées par des CP et visent à accroître la compétence pédago-numérique et le sentiment de communauté des conseillers et conseillères pédagogiques du Québec. Alors, pour ceux qui nous connaissent ou pour découverte de ceux qui ne nous connaissent pas encore, déjà bienvenue. Parmi nos activités, nous avons les ateliers qui sont un moment dans lequel un ou une conseillère pédagogique va venir partager à la communauté un outil, une connaissance particulière qu'ils ont ou une expérience particulière et permettre à chacune et chacun de découvrir celui-ci à travers le plus de pratiques et d'échanges possibles. C'est une activité qui aura lieu en synchrone, mais qui ensuite donnera lieu à la création d'une ressource asynchrone afin de permettre aussi à celles et ceux qui n'auront pas pu être présents d'en bénéficier. Le deuxième format que nous avons, c'est la pédagopause. La pédagopause, c'est vraiment un moment de partage, d'échange, d'être ensemble en tant que professionnel. Donc, on a un ou une personne CP qui va venir partager une expérience, des questionnements, quelque chose qu'il vit ou a vécu dans sa pratique. Et toutes les personnes présentes sont invitées à prendre la parole sans jugement et dans un moment de partage où on réalise la plupart du temps qu'on est beaucoup moins seul qu'on en a l'impression parfois dans nos milieux professionnels, où on est capable d'envisager le point de vue des autres, d'autres ressources, d'autres façons de faire face à différentes problématiques. Enfin, il y a la collabomersion qui est un format qui existe depuis longtemps mais que nous avons un petit peu modifié cette année. Vous connaissez sûrement la collabomersion comme un format dans lequel un ou une personne CP va venir présenter un outil qu'il ou elle a développé et où les personnes présentes vont collaborer pour bonifier cet outil et permettre d'en faire une REL qui sera partagée par la suite à l'ensemble de la communauté. Cette année, la nouveauté, c'est qu'on va organiser 4 collabomersions qui vont porter sur l'IA et qui vont être animées par Florian Meyer, spécialiste des technologies en éducation, et moi-même. Et on va vous accompagner dans l'optique de créer un ou des outils pratiques, pertinents et applicables dans vos milieux professionnels qui répondent à un ou des besoins que vous avez, tout en développant vos compétences pédagogo-numériques concernant les IA en milieu éducatif.
Sur la collaboration qui concernera les IA, d'ailleurs, on a notre collègue Florian qui a co-écrit un article dans OpVIA, donc la parole au milieu collégial universitaire, réflexion et résultats d'enquête sur l'IA générative avec d'autres personnes autrices, entre autres Serge Pichet du SSF de l'Université de Sherbrooke.
On va aussi accueillir avec nous Christelle, qui a créé Immersion CP. Christelle, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Je voudrais, s'il te plaît, que tu nous présentes ton livre assez rapidement, puis aussi nous parler un petit peu des défis que peuvent vivre à la fois les personnes enseignantes et les personnes conseillères pédagogiques dans l'implantation du Scholarship of Teaching and Learning. Et peut-être nous présenter un peu comment ce livre est susceptible d'enrichir la pratique des conseillers et conseillères pédagogiques.
Mais peut-être pour commencer, vous parler de l'histoire de ce livre. Il y avait un côté pour moi important à ouvrir justement aux acteurs, au personnel pédagogique au pluriel de l'enseignement supérieur et notamment les personnes conseillères pédagogiques. Et ce livre est né vraiment dans l'idée de se dire, mais est-ce qu'il peut à la fois être un espace qui nous permette en français de parler du SOTL, qui est un concept qui est très anglo-saxon, en comprendre non seulement les fondements, mais aussi la mise en œuvre, et être un outil qui soit utile justement pour les personnes conseillères pédagogiques, pour accompagner des enseignants qui souhaiteraient le faire. Alors, ce livre a été vraiment construit dans une logique de démarche. Donc, chaque chapitre, c'est une étape du Scholarship of Teaching and Learning, systématiquement un point théorique autour de chacune des étapes du processus, systématiquement une mise en œuvre par un praticien qui l'a vécu. Il a pour caractéristique aussi de faire intervenir des personnes de l'enseignement collégial, des personnes de l'enseignement universitaire, des personnes du Québec, des personnes de la France, de la Suisse. L'idée, c'était vraiment d'ouvrir ça à « Mais moi, comment je peux entrer dans cette démarche de SOTL ?» Donc, il est utile, évidemment, pour les personnes qui voudraient suivre un pas à pas. Quand je me situe en tant que CP, ben, il y a une double démarche. Il y a pour moi accompagner les enseignants et les enseignantes à travers la mise en place d'une innovation pédagogique ou curriculaire qu'ils vont documenter de manière rigoureuse avec des outils qu'on va emprunter à la recherche par certains moments d'ailleurs, et c'est l'une des caractéristiques du SOTL, hein, que ce soit une documentation rigoureuse, vraiment d'aller au bout de la démarche, de le publier, de le mettre à la critique de mes pairs, et pour les personnes conseillères pédagogiques d'avoir une démarche structurée à suivre avec les enseignants et les enseignants-chercheurs. Parce qu'une des choses auxquelles les CP étaient parfois confrontés, c'est que les enseignants, des fois dans des disciplines des sciences dites dures, par exemple, avaient un peu la sensation que certains CP leur proposaient des outils maison, des outils un peu légers. Donc là, l'idée, c'était d'avoir une vraie documentation, de dire non, 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 c'est pas juste moi qui vous propose quelque chose. La littérature propose des démarches. Ça se voulait aussi une occasion pour les CP d'avoir un cadre structurant quand ils accompagnent les enseignants. Et d'autre part, je pense que les CP eux-mêmes vivent un certain niveau de développement professionnel. Pendant longtemps, ça a été un peu une boîte noire et c'est ça aussi pour moi Immersion, c'est de mettre de l'avant en lien avec la compétence numérique, mais le développement professionnel du CP. Et un CP qui mène une forme de SOTL, hein, ça leur permet eux aussi de documenter leur développement professionnel. Et donc pour moi, ce livre a une double portée. Tu soulevais la question des enjeux en enseignement supérieur. Je pense qu'il y a des difficultés majeures et notamment le fait que parfois la démarche SOTL n'est pas reconnue comme un processus de recherche au même titre qu'on peut trouver de la recherche dite traditionnelle dans nos disciplines. En fait, c'est à la fois vrai et faux. Ça n'est pas le même type de recherche, c'est tout à fait vrai. L'objet qui va être mis sous la loupe, c'est la question de l'enseignement et de l'apprentissage d'une discipline. Donc effectivement, je ne vais pas faire de la recherche en chimie, je vais faire de la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage de la chimie. La personne qui va porter la recherche n'est pas nécessairement non plus un spécialiste de la recherche en éducation, il va être un praticien de l'enseignement et de l'apprentissage de la chimie. Donc là, il y a une différence effectivement, mais il y a des stratégies tout aussi rigoureuses, on va utiliser des outils qui vont être rigoureux. Si on est accompagné par une personne conseillère pédagogique, on va être accompagné dans le processus de recherche pour aller découvrir les espaces d'analyse de pratique, pour aller mobiliser la littérature pertinente, poser une question de recherche, mettre en place un projet que je vais documenter rigoureusement. Donc, ce n'est pas vrai de dire qu'une démarche de SOTL est moins rigoureuse. Elle est différente, elle fait appel à d'autres outils, mais elle est rigoureuse. D'autre part, et ça, ça concerne particulièrement les personnes conseillères pédagogiques, ils n'ont que rarement dans leur mission une mission recherche. Or, on sait qu'un certain nombre d'entre eux ont des parcours où ils auront envie de continuer à faire de la recherche, à documenter les choses. Et ça, je pense que les établissements doivent accepter que les espaces de développement professionnel passent aussi par la recherche. Mais pour moi, c'est encore un levier sur lequel on doit travailler. Et je dirais qu'il y a un troisième point qui est complexe quand on est dans une démarche de type Scholarship of Teaching and Learning, c'est la question de l'éthique. Parce qu'à l'heure actuelle, dans la plupart des établissements, les comités éthiques ne savent pas très bien comment se positionner face à la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage. Or, c'est une recherche qui fait appel à des êtres humains, souvent nos étudiants, mais on est parfois entre une frontière, entre amélioration de nos pratiques uniquement et documentation sur l'amélioration de nos pratiques. Et je dirais que là, on a une espèce d'espace qui crée du frottement et sur lequel je pense que collectivement, on pourrait avoir une réflexion intéressante.
Un immense merci, Christelle. C'était extrêmement enrichissant.
Merci beaucoup.
Et je vous rappelle donc le Scholarship of Teaching and Learning, démarche de développement professionnel pour le personnel de l'enseignement supérieur sous la direction de Christelle Lison aux éditions Chenelière à QPC. Je vous invite à le consulter, je vous invite à en prendre connaissance. Alors un grand merci à Christelle pour sa présence aujourd'hui et un très grand merci à toi, Marie-Dominique.
Et à toi, ma chère Clara. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui pour nous écouter, Clara et moi, pour vous faire ce petit topo sur ce premier mois d'activité.
On espère que le format vous plaît et surtout, on espère pouvoir continuer à vous fournir du contenu intéressant et enrichissant. La séance d'aujourd'hui nous aura permis, je pense, de vous présenter un petit peu quelles sont les expertises dont bénéficie Immersion CP et qui nous permet, je l'espère, de vous proposer un contenu toujours pertinent dans votre pratique du conseil pédagogique et dans vos pratiques pédagogiques numériques.